RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Infomag avec les jeudis de l'économie. Radio Rythme Bleu, on retrouve Jean-François Bodin et ses invités.
Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens.
Le réseau Taneo, ce jour dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu, la délégation de services publics prend fin ce soir à minuit. Car Sud a seul répondu à l'appel d'offres pour son nouveau réseau de transport en commun dans le Grand Nouméa. Les bus circuleront de nouveau lundi avec un nouveau réseau de 8 lignes. Réorganisation rendue évidemment obligatoire après les très lourds dégâts liés aux émeutes. C'est ce dont nous allons parler avec les quatre invités qui sont avec nous sur ce plateau. Naya Wateo, qui est la présidente du SMTU. Francisco Sionnet, qui est délégué syndical du soin, section transport. Yannick Lérand, qui est la directrice de la maison des étudiants. Et Rebecca Frola-Mignana, qui est la directrice de Envie, organisme de service à destination des personnes handicapées. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors on va prendre un petit peu de temps quand même avec vous au début de cette émission, Naya Wateo, pour expliquer en quoi consiste cette réorganisation du service de transport public Taneo. On sait que les émeutes ont eu des conséquences très très lourdes évidemment sur le réseau. On parle de pertes dont vous avez déjà plusieurs fois annoncé le montant qui se chiffre en milliards de francs.
On n'est pas loin du milliard,
oui. On n'est pas loin du milliard de francs, voilà. Donc il a fallu tout repenser. C'est bien ça, aujourd'hui, qui arrive à terme ?
Ah oui, bah, au-delà de tout repenser, déjà, c'est de réanimer un mort, parce qu'on va être très clair, les attaques du 13 mai sur les infrastructures, sur les collectivités, sur les entreprises, l'effet direct, c'est que le réseau de transport Taneo tel que le connaissaient les usagers avant 13 mai est mort. Donc, il faut d'abord le réanimer. Et c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on s'est attaché à faire sur les trois derniers mois avec la province sud qui est engagée à hauteur de 50% sur le SMTU, avec les communes que sont Nouméa, Païta, Dimbéa, Mondor, qui contribuent aussi au financement de ce réseau. Ça a d'abord été de réanimer un mort et là maintenant de voir comment est-ce qu'on peut remettre des bus sur la route, j'ai envie de dire, mais surtout permettre aux Calédoniens qui utilisent régulièrement le réseau de transport de pouvoir se déplacer comme il faut, à un juste prix et en sécurité.
Alors justement, à quoi avez-vous abouti? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et à quoi va ressembler ce réseau Taneo demain?
Alors on part de loin, on parlait des dégâts, effectivement c'est considérable. Il a fallu dans un premier temps prendre des décisions responsables, j'ai envie de dire. Et ça passait par le fait d'arrêter ces deux délégations de services publics qui amenaient un coût du transport de l'ordre de 4 milliards par an. Arrêter un contrat, ça veut dire derrière pouvoir en engager un autre qui soit un peu plus réaliste au regard de la situation. Donc c'est l'appel d'offres qu'on a lancé et c'est ce réseau-là qui démarrera, on va dire, officiellement à partir de lundi 10 février et qui est basé, en tout cas qui prend en compte, et ça c'était important pour nous, les préoccupations des usagers réguliers. On a constitué un réseau qui tient compte de la nécessité pour les usagers de se rendre sur leur lieu de travail, la nécessité pour les scolaires de pouvoir se rendre sur leurs établissements respectifs, pour les personnes qui sont en situation de handicap, pour les personnes qui sont des seniors, de pouvoir se rendre dans des établissements spécialisés ou là où on a des offres de soins. Ça a été le premier élément nécessaire. Aujourd'hui, on passe d'un réseau qui était de 30 lignes avant à un réseau de 8 lignes. On essaie de voir comment est-ce qu'on peut adapter et possiblement augmenter un petit peu les lignes de manière à pouvoir desservir l'ensemble des établissements scolaires pour permettre une rentrée dans les meilleures conditions. Voilà le challenge qu'on s'est fixé. On a une offre aujourd'hui qui est considérablement différente de celle qui était celle des délégations de services publics. Ça fait partie aussi des éléments positifs et des premiers points pour pouvoir opérer un réseau qui soit cohérent avec ce que les collectivités soient en capacité de financer et qui répond aux besoins des usagers.
Alors justement, c'est un réseau à quel périmètre financier aujourd'hui ?
On est sur une offre qui tient, à, on va dire à peu de choses près, à moins d'un milliard, 900 millions par an.
Contre, pour lancer le précédent réseau ?
4 milliards.
4 milliards,
oui.
Aujourd'hui, les collectivités, de toute façon, ne peuvent pas faire plus.
Ah non, c'est aujourd'hui, il ne faut pas en demander plus aux collectivités. C'est déjà compliqué pour elles. Et malgré tout, elles maintiennent un niveau de contribution qui permet à ce réseau de reprendre.
Alors, Francisco Sionnet, vous êtes, je vous le rappelle, délégué syndical du soin, section transport. Quel regard vous portez sur cette réorganisation du réseau Taneo? Comment les organisations syndicales ont participé? Est-ce que vous avez l'impression que le SMTE est allé au bout de ce qu'il pouvait faire?
Oui, depuis le 13 mai jusqu'à maintenant, on a eu pas mal d'occasions de rencontrer la présidente du SMTU et de trouver des solutions pour pouvoir maintenir un service public. Et effectivement, la sauvegarde d'un service public, un service adapté actuellement, ça a eu des conséquences quand même sociales et humaines. C'est-à-dire, on n'est pas loin de 250 personnes concernées qui seront n'auront plus rien demain, et derrière 250 personnes, c'est 250 familles qui sont sur le bord de la route. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir sauvegarder, de maintenir un service public, et demain, de penser comment on peut relancer et de pouvoir rétablir une activité d'un service public qui puisse desservir l'ensemble des communes.
Alors il y a une question à Yahuatiou qui se pose, parce qu'on sait qu'à l'issue de cet appel d'offres, seul Carsud a répondu à l'appel d'offres. Carouya visiblement ne s'est pas manifesté. Ça va représenter aussi des chauffeurs qui vont se retrouver sans emploi. Est-ce que vous avez eu des explications? Est-ce que vous comprenez la position de Carouya?
Non, je pense que ça c'est un choix qui appartient au délégataire, l'ancien délégataire que représente Carouya. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut surtout comprendre une chose, c'est que, et ça me semble essentiel de systématiquement le rappeler, si on est dans cette situation aujourd'hui où on se retrouve avec un réseau dégradé, un réseau à minima, des personnes qui perdent leur emploi, et bien évidemment que nous sommes désolés de cette situation, mais le principal, le point de commencement, ça reste ces émeutes du 13 mai et les incidences qu'il y a eu dessus. Donc aujourd'hui, Carouya, qui est une entreprise, comme beaucoup d'autres entreprises en Calédonie qui sont retrouvées dans cette situation, fait un choix. Pour nous, c'est la triste réalité aussi de la situation économique dans laquelle se trouve aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie.
Le réseau peut vous y ajouter quelque chose, Francisco Sionnet?
Non, dans les chiffres que j'avais donnés, oui. J'ai impliqué Carouya, et c'est effectivement, je parlais
juste
de Carouya.
Voilà.
Il y avait Carouya et aussi chez Carsud, parce que chez Carsud, il y aura aussi des dommages collatéraux. Aujourd'hui, le service ne peut pas permettre à reprendre l'ensemble des salariés.
Alors on est là sur un nouveau réseau, vous l'avez dit, à minima, de ce qui est possible de faire économiquement et financièrement parlant. Est-ce que tout de même vous gardez des portes ouvertes pour le faire évoluer assez rapidement, si les choses reviennent à la normale, si les choses évoluent positivement?
Bien évidemment, mais clairement ça ne sera pas pour tout de suite. Je vous le dis, déjà là on a réanimé un réseau qui était mort. Je sais que les mots sont durs, mais c'est ça. Le réseau était mort. Le réseau de le transport en commun pour Nouméa et le Grand Nouméa était mort. On l'a réanimé. On va dire qu'aujourd'hui, il va passer en phase de rééducation. Si je pouvais imaginer un petit peu les choses, c'est quand on sort de réanimation, qu'on entame une rééducation, on ne s'attend pas à pouvoir courir un 100 mètres et à gagner la course. Aujourd'hui, on va être dans une démarche progressive. Et puis encore une fois, un réseau public, il est financé par les collectivités publiques. Aujourd'hui, tout le monde est au fait de la situation dans laquelle elle se trouve. On va déjà s'attacher à optimiser ce réseau qu'on a aujourd'hui de 8 lignes, 11 lignes, de pouvoir permettre aux usagers de se déplacer. Les progressions, elles viendront lorsque la situation s'améliorera.
Vous pouvez nous rappeler combien de personnes utilisaient Taneo lorsqu'il fonctionnait à plein, et quelles sont les estimations que j'imagine vous avez faites pour ce nouveau dispositif?
Avant 13 mai, on était de l'ordre de 20-25 000 usagers par jour. C'est énorme et je pense que personne ne se rendait compte, hormis bien évidemment les professionnels du secteur, ne se rendait compte de ce que représentait le réseau de transport et sa capacité à pouvoir amener les gens d'un point A à un point B. La réalité qu'on a sur les perspectives et les données pour l'année 2025, tout a éclaté. Moi, j'ai plus de données. Les équipes du SMTU n'ont plus de données, puisqu'on part d'un réseau qui a été dysfonctionnel et où on n'a plus la capacité de pouvoir dire demain, on va avoir tant d'usagers. Je ne dis pas que c'est un pari qu'on fait, parce qu'on n'est plus là dans l'idée de parier sur quoi que ce soit. Mais on se lance un défi. On se lance un défi concrètement et ça passe aussi. On aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler. Au-delà du réseau qui répond aux besoins, c'est forcément la gamme tarifaire qui permet aussi aux usagers de revenir sur le réseau, de revenir prendre le bus. Et je l'espère, et c'est peut-être là qu'on aura le levier, pour d'autres personnes qui en ont envie aussi, parce qu'on sera devenu attractif, de commencer à prendre le bus. Mmh. Et là, oui, on pourra parler de perspective.
Francisco Sionnet, pour qu'on comprenne bien, que ce soit chez Carsud ou chez Carouya, même si aujourd'hui on a bien compris qu'ils n'étaient plus dans le nouveau projet de SMTU, les chauffeurs sont propriétaires de leur bus. Comment ça se passe très concrètement?
Aujourd'hui, c'est plutôt le GIE de Carouya qui était propriétaire de leur bus, et Carsud, ce sont des employés. Effectivement, maintenant, sur ce qui se passe actuellement, vous avez évoqué sur les leviers qui financent le transport public. Il y en a trois actuellement. C'est les collectivités, la taxe carbone concernant le carburant et les recettes commerciales. Mmh. Et aujourd'hui, il faut que ce soit une période de transition. Là, aujourd'hui, je pense qu'il faut l'évoquer, il y a un tarif qui a été mis en place pour maintenir le réseau, mais que la solidarité ne doit pas venir par le bas. Et ça doit être une période de transition. Aujourd'hui, la solidarité, il faut vraiment avoir une réflexion sur un dispositif qui soit structurant pour l'avenir. C'est-à-dire que demain, comment on apporte une réflexion sur de nouveaux contributeurs sur le service public de transport de personnes.
Mmh. Et où êtes-vous ?
Oui, je voulais dire, parce que effectivement, Francisco l'a évoqué sur le financement du transport. C'est effectivement les collectivités, c'est cette taxe carburant, qui veut dire que les usagers qui ne prennent pas le bus le financent aussi. Donc on a tout intérêt à ce que l'outil fonctionne, parce que moins de voitures sur la route, ça fluidifie la circulation. C'était ça aussi, à un moment donné, la philosophie engagée pour la création de ce réseau Taneo moderne. C'était pouvoir inciter les gens à moins prendre la voiture et plus prendre le bus. Et ça, et c'est effectivement ces recettes commerciales. La question de la solidarité, moi j'ai envie de dire qu'elle va au-delà de ça. C'est aujourd'hui la responsabilité de comprendre comment fonctionnent ces dispositifs. Et effectivement, durant la période qu'on a connue de reprise, on a demandé un effort supplémentaire aux usagers, avec un ticket, là aussi j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler, un ticket à 500 francs. Mais un ticket à 500 francs, c'est un ticket qui était encore pris en charge à 50% par les collectivités. Avant 13 mai, le coût du transport, le coût d'un ticket, il était de 30% pour les usagers. Donc on revient aussi sur cette conception de juste prix et prix juste. Le prix juste pour un trajet, aujourd'hui, il est bien au-delà de 500 francs. Je pense que c'est important aussi que les gens s'en rendent compte. Un réseau de transport, ça a un coût. Aujourd'hui, on l'optimise au maximum pour permettre d'intégrer pleinement cette réalité économique qui est celle de la Nouvelle-Calédonie et de la capacité pour les collectivités à le financer. Et bien évidemment que l'objectif d'après, j'ai envie de dire, et c'est celui qu'on va attendre, parce qu'on a besoin aussi de se donner des perspectives et de l'optimisme, c'est de se dire qu'on va revenir sur un réseau de transport qui sera adapté, moderne, et puis surtout qui sera complémentaire avec d'autres modes de transport.
Alors on va revenir sur cette question des tarifications, mais on va s'intéresser aux quelques 25 à 30 000 personnes qui utilisaient le réseau chaque jour avant les émeutes du 13 mai. Elles sont une partie de la population très nombreuse, dans des secteurs très différents. Il y a des étudiants, il y a des personnes en situation de handicap. J'imagine que pour vous, Yannick Clairant, qui êtes la directrice de la maison de l'étudiant, c'était devenu un problème extrêmement compliqué à aborder, alors qu'il y avait une rentrée scolaire qui se préparait, que vous étiez dans l'expectative et que de nombreux étudiants n'ont pas moyen de se rendre à l'université. Donc est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfaite de ce qui se passe, et est-ce que l'université sera à nouveau desservie ?
Alors effectivement, c'est une bonne nouvelle d'apprendre que les bus vont fonctionner à partir de lundi prochain, et puis aussi que les étudiants vont pouvoir bénéficier, enfin les usagers, en particulier les étudiants qui souvent sont en situation de précarité, vont pouvoir bénéficier d'un pass, d'un tarif abonné. L'an dernier, alors le réseau a été interrompu pendant très longtemps, mais le peu de temps où il a repris, c'est-à-dire d'octobre à décembre, la maison de l'étudiant a dû intervenir pour prendre en charge l'abonnement, enfin le ticket, le prix du ticket de ses étudiants, pour quand même une somme à peu près d'un million sur deux mois. Donc, parce que les étudiants se sont retrouvés du jour au lendemain à payer au mois 20 000 francs, alors que précédemment ils payaient 4 500 et ils n'ont pas pu faire face à cette demande. Donc ce qu'on a pu payer sur une courte période de deux mois, on se voyait mal pouvoir l'assumer sur une année complète. On n'en a pas nous-mêmes les moyens et ni le budget. Donc là, c'est effectivement une très bonne nouvelle, et je me réjouis de l'entendre. Après, c'est vrai que les émeutes ont aussi, pas seulement appauvri la population, mais également mis en situation de précarité des étudiants qui jusqu'à maintenant ne l'étaient pas. On le voit bien, les demandes sont plus nombreuses sur la prise en charge des frais d'inscription, sur la prise en charge de la couverture sociale qui est chère en Nouvelle-Calédonie. C'est 49 300 de payer sa CAFAT. Donc, rajouter en plus un tarif de bus élevé, ça devenait très compliqué pour nos jeunes.
Même question pour vous, Rebecca Frolamignana, qui vous occupez donc de Envie, cet organisme à service destination des personnes handicapées qui ont aussi besoin souvent de prendre les transports en commun. C'est une bonne nouvelle, la relance du réseau Taneo, mais il va quand même manquer des choses par rapport à ce qui existait.
On est un organisme, on est surtout une entreprise, donc une entreprise sociale, avec des salariés en situation de handicap qui sont en parcours d'insertion pendant 8 mois. Et sans bus, on n'a pas de salariés. Donc on ne peut pas produire, on ne peut pas développer notre chiffre d'affaires. Ça a été très compliqué, donc des émeutes jusqu'à la reprise des bus. On a bidouillé, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à les encadrants à faire les navettes pour que nos salariés puissent venir travailler. Ils étaient en demande, sauf qu'on en a effectivement qui étaient de Hauteuil à Caméré, à Dumbéa. Donc on s'est arrangé, mais c'est clairement pas viable. C'est des solutions d'une précarité et puis qui précarise encore plus notre public. Effectivement, nous on est rassurés là déjà que les bus il y a eu cette situation d'octobre à décembre qui a été compliquée.
Transitoire, on va dire.
Transitoire et financièrement compliquée. Le pass pour les personnes en situation de handicap permet de se dire que ils vont avoir un pass qui va leur permettre de venir travailler tous les jours. Donc c'est rassurant aussi pour une entreprise, une chef d'entreprise comme moi. Parce que sans salarié, et puis la régularité, le fait d'avoir toutes nos équipes à l'heure ou au moment où on a besoin d'eux, c'est-à-dire du lundi au samedi.
Alors on l'a vu avec notamment le cas des étudiants, il y a quand même eu une partie de la population qui a subi les effets du 13 mai, qui s'est appauvrie en quelque sorte. Est-ce que le chef d'entreprise que vous êtes réfléchit à une prise en charge, pourquoi pas, par votre société, d'une partie, par exemple, d'un abonnement pour un transport en commun de vos salariés ?
On a la chance d'être partenaire avec le STMTU depuis 2 ans, donc on est conventionné. Donc c'est vrai que ça permet aussi une prise en charge de la carte de bus de nos salariés qui sont en parcours d'insertion pendant ces 8 mois. Donc on remercie le SMTU de renouveler cette aide quand même pour 2025. Mais la précarité depuis les événements et je pense aux repas. Bon, on s'éloigne un peu, on prenait en charge les repas. Je prenais en charge les repas avec la banque alimentaire de nos salariés en insertion puisqu'ils ont une rémunération qui est évolutive mais qui est plus petite qu'un SMG normal. Et tout ça, ça volait en éclats depuis le 13 mai. Donc on est dans une paupérisation clairement de nos équipes qui étaient déjà en situation souvent de difficile, quoi.
Naya, t'es où?
La situation que décrit Rebecca, elle a été aussi ressentie par d'autres structures et on a été sollicité durant cette période de, alors quand on a eu la suspension pour raison de sécurité et puis ensuite avec la reprise en mode dégradé, mais on a beaucoup d'entreprises aussi et d'administration et de structures qui embauchaient des personnes qui se sont rendues compte qu'effectivement, quand il n'y a pas de transport, ça génère des problématiques nouvelles. L'absentéisme, les plages horaires qui doivent être adaptées parce que, effectivement, si le bus passe plus devant chez moi, je vais devoir marcher un peu plus longtemps. Donc, il va falloir que j'adapte mon temps de trajet. Mon arrêt va peut-être pas s'arrêter à proximité de mon lieu de travail. Donc, tout ça ont été aussi un moyen. J'ai envie de dire qu'à partir du moment où il n'y avait plus de bus, les gens se sont rendus compte que c'était que la vraie problématique quand il n'y a pas de transport. Et pour les entreprises, ça va même au-delà de ça. Et encore plus pour Envie ou pour d'autres structures qui sont dans le domaine de l'insertion. L'objectif de l'insertion, c'est d'avoir ce partenariat avec les entreprises. Mais quand vous avez des entreprises qui n'existent plus, on arrive encore dans une forme de précarité supplémentaire. Sur la question de la prise en charge de l'employeur, c'est un sujet qu'on est en train de réfléchir avec, on a aujourd'hui le titre repas qui existe, pourquoi pas envisager un titre repas transport. Ça nécessite d'avoir des discussions bien évidemment, et puis je pense qu'il ne faut pas oublier le contexte dans lequel on se trouve, et que oui, une contribution des employeurs peut toujours être intéressante, mais est-ce qu'aujourd'hui ils sont en capacité de pouvoir la mettre en place? Je pense que ça fait partie des discussions, il faut qu'on le voit, en tout cas nous on réfléchit à cette disposition-là, mais quand il n'y a plus de transport, on s'est rendu compte que finalement, c'était quand même ça manquait.
Francisco Sionnet, il y a les moyens de relancer le réseau. Je parle techniquement, les bus ne sont pas circulés pendant quelques semaines, voire quelques mois. Est-ce qu'ils existent en nombre suffisant? Est-ce que l'entretien est suffisant? Et puis, dans quel état d'esprit aussi sont les chauffeurs aujourd'hui?
Je vais juste, avant de répondre à votre question,
si vous intervenir quelque chose. Allez-y, je vous en prie, bien sûr.
Sur les dispositifs différents, je veux juste rappeler que le service public, l'essence même d'un service public, il est fondé sur une politique, des politiques publiques qui sont accessibles et inclusives. Et on parle de prix, on parle de catégories seniors, de personnes à mobilité réduite. Après, intervenir aussi sur la participation des entreprises. Aujourd'hui, il y a des entreprises, certaines entreprises ont des conventions avec le SMTU. Il existe actuellement le chèque déjeuner. Aujourd'hui, nous, le soin, quand on a travaillé là-dessus pendant la période de transition, c'est de dire aujourd'hui, on a rencontré que le chèque déjeuner, aujourd'hui, il a un support qui s'appelle Néoca. Aujourd'hui, c'est de ne pas rajouter un coût supplémentaire, mais le diversifier. Les néocards qui existent aujourd'hui, c'est pouvoir s'alimenter.
Ça pourrait aussi servir au transport.
Aujourd'hui, demain, c'est pouvoir dans la mobilité. Et nous avons rencontré d'ailleurs les concepteurs de la néocarte qui disent que la faisabilité c'était positif. Cependant, ça a été déposé dans le cadre du PS2E. On avait déposé nos luçons avec cette proposition et qu'il y a juste, il faut juste légiférer au niveau du Congrès pour pouvoir, aujourd'hui, ça ne coûtera rien aux employeurs. Néanmoins, néanmoins, diversifier ce portefeuille. Et aujourd'hui, ce n'est pas que déjeuner, on peut se déplacer aussi. Et pour revenir sur les moyens techniques, oui, on est prêt. Effectivement, on sera prêt pour lundi prochain pour pouvoir mettre en œuvre tous les moyens techniques et qu'on puisse répondre aux besoins de la population.
Naya, où t'es où ?
Bien sûr que je l'ai laissé tout à fait opérationnel sur ce plan-là, mais du coup aussi, ça me permet de rappeler que demain et samedi, en revanche, on a une suspension du réseau. Il n'y aura pas de bus. Pourquoi ? Parce que justement, il faut que les équipes du SMTU, les équipes du nouveau prestataire retenu qui est Gare Sud, puissent s'organiser, finaliser les plans de ligne, refaire du paramétrage. Mais en tout cas, on sera les équipes. Je vais remettre à César qui est à César, mais les équipes seront prêtes à partir du 10 février. Mais entre le 10 et le 17, on va avoir une petite période de rodage. Donc là aussi, peut-être un message aux usagers qui attendent ce réseau avec impatience, d'aller se renseigner sur les pages Facebook du Taneo.
Il y a beaucoup
et tout.
D'attentes, notamment pour le transport scolaire,
c'est évidemment la période
de rentrée.
Mais disons rapidement, du 10 au 17, les équipes vont être un petit peu en période de rodage, mais l'objectif qui se fixe et qu'on se fixe au travers du SMTU, c'est de pouvoir opérer à partir du 17 février une rentrée dans les meilleures conditions possibles.
Alors un mot pour la gamme tarifaire, puisqu'on l'a évoqué quand même un petit peu, mais il faut annoncer quelques chiffres. Le ticket de transport.
On revient de loin sur ce ticket. On s'est beaucoup fait attaquer sur ce ticket, avec ce ticket unique à 500 francs. On était le réseau le plus cher du monde, plus cher que Paris, plus cher que New York.
Il faut bien être premier en quelque chose.
Oui, c'est sûr. Bon, là, j'avoue qu'on ne s'est pas forcément gargarisé de ça. Et puis surtout, dans les faits, ce n'est pas si vrai que ça. Donc, je pense qu'il faut aussi remettre ça sur le point. Enfin, ni Paris, ni New York n'ont vu leur réseau détruit, des entreprises brûlées et tout ce qui va avec et tout ce qui s'en est suivi. En revanche, il y a une chose qui est sûre. Il y a le ticket, en tout cas le ticket de transport, le trajet, restera à 500 francs. Mais ça, c'est pour les personnes qui l'utilisent que très peu. La gamme tarifaire qui est mise en place, elle tient compte. Parce qu'on a fait, dans la période entre octobre et décembre, on est allé questionner nos usagers du réseau. Il y avait trois préoccupations et trois attentes fortes. La première, évidemment, c'était d'avoir un coût de transport qui soit acceptable. La deuxième, c'était d'avoir un réseau qui réponde aux besoins vitaux des usagers, c'est-à-dire pouvoir se scolariser, pouvoir aller travailler et pouvoir aller se soigner. Cette carte et ce réseau-là, il est constitué, il répond à ces priorités-là. La troisième attente, c'était de pouvoir voyager en toute sécurité. Donc on s'attache à répondre à ces trois critères. Et sur la question de la grille tarifaire, parce que les usagers connaissent très très bien le mode de fonctionnement et sur la grille, c'était de remettre en place le principe des plafonds. Et là, oui, j'ai envie de dire, on a des bonnes nouvelles à annoncer, si on peut dire ça comme ça. Pour un collégien qui doit partir le matin pour aller dans son établissement, revenir le soir, en moyenne 5 jours par semaine. Sur un mois de mars complet, par exemple, eh bien, il a un plafond, il paie son plafond, son pass, à 8000 francs. 8000 francs pour le mois. Mais à partir du 9e jour, il voyage gratuitement sur l'ensemble du réseau Tanéo. C'est pareil pour les personnes en situation de handicap, c'est pareil pour les personnes...
Les seniors.
Les seniors.
De plus de 60 ans.
Parce qu'on a remis en place ce plafond. Alors bien sûr, avant, il était à 4500, aujourd'hui, il passe à 8000. Mais voilà, on fait aussi avec les moyens qui sont les nôtres. Mais c'est vraiment de se dire que plus je voyage, moins je paye en fait. Parce que du coup, on revient à un ticket qui est de l'ordre de 270 francs. Pour un travailleur, une personne de plus de 27 ans, qui part le matin pour aller travailler, qui rentre le soir 5 jours par semaine, c'est-à-dire qu'il voyage régulièrement, au bout de son 13e, du 13e jour, il voyage gratuitement sur le reste de l'année. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que ce réseau, il est repensé sur la base des usagers qui le prennent quotidiennement et qui sont les premiers utilisateurs. Et alors, oui, par contre, quand c'est de temps en temps, et ben, le ticket, il est à 500 francs. Alors, et encore à 500 francs, il est financé à 50%.
Prenons l'exemple des étudiants ou encore ou des personnes en situation de handicap. Si j'ai bien compris, ce sera 8 000 francs par mois, en gros. Hein. C'est ce que vous avez annoncé, Naya Watou. Vous l'avez dit, Yannick Liran, les étudiants, ils ont déjà des charges qui s'accumulent. 8 000 francs, ce n'est pas énorme, mais c'est beaucoup pour eux.
Oui, ça peut représenter une grosse dépense. Dans ce cas-là, eh bien, s'ils sont en situation de précarité, dans l'incapacité d'assumer cette dépense, ils viennent nous voir à la maison de l'étudiant et on pourra participer.
Il y a des aides possibles, des participations.
Il y a des aides possibles. On a une subvention assez importante qui vient du CNUS, du Centre National des Œuvres Scolaires Universitaires, donc de l'État, qui nous verse des aides pour un montant en gros de 10 millions, mais alors pas seulement pour le transport, bien sûr, pour l'ensemble des aides alimentaires, de loyers, etc. Et on prendra sur cette subvention l'aide au transport pour les étudiants.
Concernant les personnes en situation de handicap, 8 000 francs par mois, pareil, c'est une somme
C'est une somme. Hein, c'est, alors pour ceux qui travaillent, effectivement, ça va. Et après, il y a toutes les personnes qui ne travaillent pas. Il faut en plus avoir un taux de handicap de 66% pour pouvoir bénéficier de ce pass. Après, voilà, la situation actuelle ne permet pas de faire autrement. Je pense qu'on est tous... On est tous d'accord pour se dire que si on peut faire au mieux, nous, les entreprises, les structures d'insertion pour aider voilà, ce public, il y a aussi des aides hein, financées par des fois la province sud, le gouvernement, le FIPH, le fonds d'insertion pour le handicap aussi. Hein, donc il ne faut pas hésiter à aller solliciter hein, pour les personnes qui n'ont pas les moyens de payer ce pass. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une situation où aujourd'hui, on subit tous, malheureusement. Et souvent, les plus précaires subissent encore plus.
En tout cas, c'est bien que le réseau redémarre. Enfin, on allait dire, il y avait beaucoup d'attentes. Il redémarre donc le 10 février, hein, c'est oui. Bien ça, avec une petite période d'adaptation qui va durer une semaine pour que tout soit prêt pour la rentrée scolaire.
Exactement.
Mais, oui, Francisco Sionnet.
Je vais rajouter, parce que là, on parle transport sur le coût de la vie, hein, sur le pouvoir d'achat. Mais ça, si on intègre tous les coûts supplémentaires que dans une vie normale, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut tenir compte. Tout à l'heure, j'évoquais un sujet à court terme, qui était le chèque transport, qui était facile à mettre en œuvre. Mais demain, il faut réfléchir à des dispositifs qui soient structurants aussi. C'est que nous, l'UCEN, on a aussi déposé au niveau du gouvernement que les employeurs puissent participer. Aujourd'hui, c'est vrai, effectivement, tout le monde nous dit que ce n'est pas le moment. Mais c'est jamais le moment. Et que maintenant, on a une réflexion sur 3 ans qu'une taxe transport soit mise en place sur les entreprises de plus de 11 salariés, avec un pourcentage sur la masse salariale qui puisse contribuer au service public. Aujourd'hui, il y a leurs salariés qui puissent contribuer pour que leurs salariés puissent venir. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et il y a la réflexion à très court terme. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces périodes de transition? Mais il faut se projeter. C'est important. C'est se projeter pour que ça soit viable. Sur le long terme. Et aujourd'hui, pour moi, les entreprises de plus de 11 salariés peuvent intervenir, est un levier qui sera majeur pour le transport en commun.
Allez, Naya Watou, le mot de la fin.
Oui, juste rapidement. 2025, je pense que ce sera l'année du transport. Rien que demain, par exemple, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de vol Aircal, il n'y a pas de Petit Show. Qu'on ait un vrai sujet sur la question du transport. Et puis le dernier mot, parce que, encore une fois, ça me permet important de le rappeler. On peut critiquer, on peut dire que les collectivités, les institutions ne font pas assez. La réalité, c'est que quand on s'attaque aux institutions, quand on s'attaque aux administrations qui font du service public, eh bien, les premières personnes que l'on sanctionne et que l'on pénalise, ce sont ces usagers eux-mêmes, ceux pour qui ces mesures sont mises en place. Donc je pense qu'il faut quand même en tenir compte. En tout cas, à notre niveau, on fait en sorte que la reprise se passe dans les meilleures conditions possibles, que les gens puissent se déplacer en toute sécurité, dans les meilleures conditions possibles et au juste prix.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau pour participer à ces Jeudis de l'économie consacrés à la reprise du réseau Taneo, une émission qui sera disponible en réécoute sur notre site internet dans quelques minutes. Je vous souhaite une belle après-midi.
C'était les Jeudis de l'économie avec la BCI.
Face aux défis d'aujourd'hui et à ceux de demain, la BCI est à vos côtés. En agence ou à distance, nous vous accompagnons pour trouver ensemble des solutions adaptées à votre situation. Report d'échéance, financement, épargne, assurance. BCI, ensemble, voire plus loin.